Eh bien, si on avait un Père Noël aussi pétant, disons.
Donc, à passer dans votre famille, si vous faites
parce
un Noël.
Parce que Pépère,
demain,
là, disons, on nous en a servi une tartine. Les enfants qui écoutaient, n'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles. T'as un gros ventre, barbe blanche, lunettes, nez un peu rouge.
Donc voilà, c'était une reprise d'un morceau des Vampasses.
Ça ne nous regarde plus.
Par le bal des enragés. Donc voilà.
D'accord. Bah, vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires jusqu'à 21h et on va reprendre avec quelques infos.
Voilà, quelques infos en vrac hein, pour ce soir. Il nous reste encore un petit quart d'heure avec un article trouvé, il me semble, aussi sur Paris Lutte Info, donc avec un blackout au Ménil-Amélo. Donc Ménil-Amélo, c'est un centre de rétention. J'ai dit quoi ?
Amélo.
Amélo, ouais.
Amélo. Oui, je connais très bien d'ailleurs.
Ouais.
Ménil-Amélo.
Privé d'eau et d'électricité, les personnes enfermées au centre de rétention.
Voilà.
Donc dans le 77, voient leurs conditions de vie très dégradées depuis dimanche soir, donc c'était la semaine dernière. Mais même dans le noir, la machine à expulser continue son travail. Nous sommes dans le noir et sans eau depuis dimanche 21h, témoigne un Mauricien retenu au centre de rétention, dans ce grand centre flambant neuf, très excentré, auquel sont accolés un tribunal et l'aéroport de Roissy, comme c'est pratique, les personnes retenues n'ont pu jusqu'à mardi matin ni se laver, ni manger chaud. Leurs téléphones sont déchargés, ils donnent de leurs nouvelles en se prêtant les téléphones qui fonctionnent encore. Les personnes en situation administrative irrégulière retenues dans ce centre ont passé toute la nuit dans le froid, ils ont les doigts blancs, c'est insoutenable, racontait lundi un proche d'une personne enfermée. Dans les bâtiments où dorment les personnes retenues, le chauffage n'a été rétabli que mardi matin, les personnes ont passé une deuxième nuit dans le froid. Durant toute la journée de lundi, des odeurs nauséabondes flottaient dans le centre du fait de la panne qui entraînait une panne de chasse d'eau. Voilà, de plus, le ménage n'avait a priori pas pu être fait en l'absence d'eau et d'électricité. Le groupe électrogène censé pallier l'absence de courant n'était pas suffisamment pour fournir l'ensemble des bâtiments du centre. Donc voilà, là en conséquence, ça a pu constater de graves atteintes aux droits et à la dignité des personnes. Les personnes convoquées à la cour d'appel hier n'y ont pas été escortées. Un document aurait été adressé à la cour expliquant que la panne généralisée empêchait que les personnes le soient. Plusieurs personnes convoquées au tribunal administratif se sont plaintes de n'avoir pu recevoir les documents attestant de leur situation. Aucun fax ou email ne pouvant être réceptionné au centre. Et voilà. La panne dans les bureaux aussi de la CIMAT qui gère là-bas ayant depuis longtemps aucune démarche juridique ne pouvait être effectuée avec son appui jusqu'à mercredi. Les chefs de centre auraient prévenu les juridictions. Reste à savoir si les appels et recours introduits hors délai seront jugés recevables ou non. La cour a tout de même statué et confirmé la prolongation dans la majorité des cas. De même, un juge des libertés a tenu ses audiences dans le noir, à la bougie et dans des conditions très discutables. Par contre, des mesures d'urgence ont été prises aussitôt, les visites sont interdites et les amis et familles des personnes retenues ne peuvent plus leur apporter ni vivres, ni médicaments, ni vêtements. Les téléphones portables restent autorisés à condition qu'ils ne soient pas dotés d'appareils photo. Des demandes de libération fondées sur l'atteinte à la dignité et la violation de certains droits ont été examinées mardi après-midi. Dans l'une d'entre elles, le juge ose l'écrire, entre guillemets, le maintien du retenu dans un local sans électricité et notamment sans chauffage durant l'hiver à des températures proches de 0 degré ne constitue pas encore à ce jour des conditions de rétention contraires au principe de respect de la dignité de la personne humaine. On demande ce qu'il faut du coup pour que ce soit le cas. Pour rappel, la coupure de courant et d'eau donc datée du 13 décembre à 21h30 et cela est rétabli partiellement le mardi suivant vers 15h. Donc voilà, les conditions de rétention dénoncées ont donc perduré presque 48 heures, ce qui ne suffit visiblement pas au juge des libertés qui ajoute dans sa grande mansuétude qu'il convient toutefois d'observer que cette situation ne saurait perdurer sans finir par porter atteinte au droit du retenu. Bah oui, il manquerait plus que ça. Que ça ne le soit pas. On voulait aussi vous parler d'un petit dessin trouvé sur le net, voilà, un petit communiqué qui a été trouvé d'une organisation qui s'appelle le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, hein, le FUUKP, une organisation dont le porte-parole est le sociologue Saïd Bouamama, également proche de Michel Colomb, qui vient de publier sur son Facebook un dessin antisémite tout droit sorti d'Égalité et Réconciliation, hein, on le rappelle, d'Égalité et Réconciliation, c'est la bande à Sorel et Dieudonné, l'évidence de la rhétorique dieudonniste qui consiste à mettre en concurrence les victimes de la Shoah et celles de l'esclavage aurait pourtant dû sauter aux yeux d'une organisation qui se dit entre guillemets antiraciste. Et cet Européen blanc aux cheveux poivre et sel qui enseigne à de petits Africains, représentés eux aussi en usant de clichés racistes les plus crasses, qui porte une chemise blanche entrouverte ne figurerait-il pas un certain philosophe, tête de turc habituel des antisémites de tout poil, ou bien cet autre philosophe réactionnaire, lui aussi d'origine juive mais porteur de lunettes, autour d'un retentissant taisez-vous. Dans une célèbre émission de télévision, les deux étant fondus dans une sorte de chimère au nez crochu. Jusqu'aux livres tenus en main par les enfants qui sont estampillés Fernand Nathan, du nom du fondateur d'origine juive des éditions Nathan, qui édite de nombreux manuels scolaires, tout ceci ne viserait-il pas in fine à faire porter aux juifs la responsabilité du colonialisme? Mais non, pas ému pour un sou, cette organisation-là, donc le FUIQP, n'y voit que de l'humour entre guillemets, et qui plus est, au service des luttes toujours entre guillemets. Et une petite mise à jour de l'article, hein, quelques minutes plus tard, après la publication de cet article, qu'on peut trouver sur le site confusionnisme.info, le FUIQP a retiré ce dessin de son mur, mais il sera resté en ligne pendant près de 8 heures. Ensuite, on va se faire un petit tour au niveau international, avec un petit tour en Éthiopie, où au moins 75 personnes ont été tuées ces dernières semaines par les forces de sécurité éthiopiennes qui ont ouvert le feu contre des manifestations dans la région de l'Oromia, d'après l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, une accusation qui tranche avec le bilan officiel qui lui ne fait état de 5 morts seulement. Le gouvernement a affirmé de son côté que des manifestations pacifiques, entre guillemets, avaient dégénéré en violence et accusé les manifestants de, entre guillemets, terroriser les civils. Les manifestations ont commencé le mois dernier dans la région de l'Oromia, autour de la capitale, Addis Abeba, pour protester contre un projet d'agrandissement programmé de la capitale qui a suscité des craintes d'expropriation de terres dans des zones traditionnellement occupées par le peuple Oromo. Donc cette association, la Human Rights Watch, a reçu des informations crédibles selon lesquelles les forces de sécurité ont tué des dizaines de manifestants dans les zones de Chiwa et Welega, à l'ouest d'Addis Abeba, début décembre. Plusieurs personnes ont dit avoir vu les forces de sécurité dans la ville de Walizo, à 100 km au sud-ouest d'Addis Abeba, tirer sur la foule des manifestants en décembre, laissant des corps étendus par terre et dans la rue. Le fait que le gouvernement qualifie les manifestants très largement pacifiques de, entre guillemets, terroristes et l'envoi de forces militaires représente une escalade très dangereuse, a estimé Leslie Legfo, directrice adjointe de l'Organisation pour l'Afrique, craignant un bain de sang encore plus important. Plus tôt, l'ONG avait rappelé que le peuple Oromo, qui se sent marginalisé, avait déjà subi en 2014 des violences policières. Et là, on cite « Les manifestations actuelles font écho aux événements sanglants d'avril et mai 2014, quand les forces fédérales avaient tiré sur des manifestants Oromo largement pacifiques, en tuant des dizaines. Maintenant, comme à l'époque, les manifestants protestent contre l'expansion des limites municipales d'Addis Abeba dans la région environnante de l'Oromia, car ils craignent que cela n'oblige les fermiers Oromo à quitter leurs terres. Mais ces manifestations sont plus que cela. De nombreux Oromo se sont sentis marginalisés et victimes de discrimination par les gouvernements éthiopiens successifs et ont souvent eu l'impression de ne pas pouvoir faire entendre leur inquiétude au sujet de la politique gouvernementale. Les défenseurs des droits de l'homme ont à plusieurs reprises dénoncé le recours des autorités éthiopiennes à une législation antiterroriste pour museler l'opposition pacifique. Ça peut rappeler quelque chose. En 2014, Amnesty International avait affirmé que des milliers d'Oromo étaient régulièrement l'objet d'arrestations arbitraires, de longues détentions sans inculpation, de disparitions forcées, d'actes répétés de torture et d'exécutions extrajudiciaires par le gouvernement éthiopien qui les accuse de soutenir. Le groupe rebelle Front de Libération Oromo, la région de l'Oromia qui compte près de 27 millions d'habitants, est la plus peuplée du pays et a sa propre langue, l'Oromo, différente de la langue officielle qui est l'Amharic. Et on va maintenant au Danemark. Retourne en Europe. Voilà, qui voudrait bien, donc c'est un projet, hein, le gouvernement qui a présenté en novembre un projet de loi en ce sens, le sens de qui voudrait confisquer bijoux et argent liquide aux migrants et aux migrantes. Voilà, ce projet de loi devrait être débattu au Parlement en janvier. La mesure est très contestée. Le gouvernement danois a défendu donc le vendredi 18 novembre, donc il y a un mois, son projet controversé de confisquer bijoux et autres effets de valeur aux migrants et migrantes. L'objectif, hein, selon le gouvernement, financer leur accueil. C'est quand même formidable, ça. Le projet de loi présenté en novembre doit être débattu donc au Parlement en janvier. Il prévoit d'autoriser la fouille des bagages des réfugiés et de confisquer tout objet de valeur ou argent liquide au-delà de 3000 couronnes danoises, donc 400 euros environ. Les montres, les bijoux auxquels leurs propriétaires manifestent un attachement particulier, comme les alliances, mais aussi les téléphones portables, ne sont pas concernés. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un resserrement plus large des conditions d'accueil des migrants dans le royaume scandinave. Certains médias étrangers réprouvent le fait que nous puissions à l'avenir saisir les effets de valeur des demandeurs d'asile et exiger qu'ils prennent en charge le coût de leur séjour dans des centres pour réfugiés, a écrit la ministre de l'Intégration. Elle faisait allusion, sans le nommer, au prestigieux Washington Post qui a tensé le Danemark. Le journal américain estime que le projet de loi a une connotation particulièrement douloureuse en Europe, où les nazis ont spolié les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces critiques ne sont pas, selon eux, justifiées, a réagi la ministre donc du parti de droite Venstre, qui prône une immigration à minima. Le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen a regretté un portrait erroné au Danemark. Une pétition non à la confiscation des biens des migrants avait recueilli vendredi près de 5900 signatures. Fuir des régimes brutaux et totalitaires témoigne de l'aspiration des hommes à vivre dans une société plus accueillante. Refusons que les demandeurs d'asile soient accueillis dans ce même esprit totalitaire. Désolé, je vais tousser un peu. Petite pause de boisson.
Ben oui, il faut bien humecter hein, de temps en temps quand même.
Alors, on va essayer de finir l'émission, c'est un peu dur, là. On resterait au moins une petite brève à vous donner. Et pour le reste, tant pis, on le fera peut-être une prochaine fois.
Ah, parce on que t'avais aller... encore...
j'en aurais encore un petit peu.
Chapeau !
Donc, on va faire un petit tour en Tunisie, ce coup-ci, où une bonne cinquantaine de personnalités est actuellement mobilisée pour dénoncer l'article 230 du Code pénal criminalisant l'homosexualité. La campagne a démarré le 10 décembre à l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Les juges de Kairouan, pardon pour mauvaise prononciation, ont infligé 3 ans de prison aux 6 accusés. Ils sont en outre bannis de la ville pour 5 ans. L'homosexualité est toujours interdite en Tunisie, où on compte 50 condamnations par an. Donc ces 6 étudiants-là qui ont été condamnés pour homosexualité à 3 ans de prison et 5 ans de bannissement de la ville de Kairouan en Tunisie, donc, où ils ont été arrêtés le 4 décembre. Il s'agit de la peine maximale prévue par l'article 230 du Code pénal qui criminalise la sodomie. Les 3 juges qui ont rendu leur décision le 10 décembre sont allés encore plus loin en décidant donc du bannissement, donc c'est l'article 5 du Code pénal. La punition de bannissement est une première pour des cas de ce genre, assure l'avocate Fadwa Braham, spécialiste des procès d'homosexuels. La loi date de 1913, elle a été très rarement appliquée et concernait surtout des femmes prostituées dans les années 60 et 70. L'un des condamnés a écopé de 6 mois de prison en plus pour atteinte à la pudeur, car les policiers ont retrouvé des vidéos pornographiques sur son ordinateur. Les 6 inculpés ont également dû subir un test anal pendant leur interrogatoire, une pratique dénoncée comme avilissante par différentes associations des droits humains. Les défenseurs et proches des 6 étudiants craignent des conditions déplorables d'emprisonnement. Leur principale peur est qu'ils soient détenus dans les cellules avec des prisonniers homophobes qui pourraient s'en prendre à eux physiquement. Les étudiants vivaient dans le foyer universitaire de Rakada à Kairouan, une ville très conservatrice au centre du pays. Les circonstances de l'interpellation ne sont pas encore très claires. Selon l'association de défense des minorités Cham, ils auraient été arrêtés à l'intérieur du foyer pendant que 2 d'entre eux avaient des relations sexuelles. Pour Fadwa Braham, l'arrestation aurait eu lieu en dehors du foyer et les jeunes gens auraient été dénoncés par des voisins. Ce jugement relance le débat de la criminalisation de l'homosexualité en Tunisie. Le 10 décembre, pour la Journée internationale des droits humains, l'association Shams voulait organiser une manifestation pour le droit des homosexuels. Les autorités ont interdit la manifestation car, nous ont-ils dit, nous nous occupons de la lutte contre le terrorisme, pas des PD. S'indigne Ahmed Ben Amor, vice-président de Shams, au moins ça mérite d'être clair. L'association a décidé de lancer cette semaine une campagne virtuelle de sensibilisation. Nous allons intensifier notre campagne qui s'appelle « On existe, on est criminalisé » contre l'article 230, assure de son côté Ali Boussemi, cofondateur de l'association Maïjoudine, désolé pour la prononciation aussi, pour le droit des personnes LGBT. Il y a une véritable chasse aux homosexuels en Tunisie. En septembre, un étudiant de la région de Sousse avait été condamné à 1 an de prison pour homosexualité après avoir subi un examen anal. Grâce à son avocate, Fadwa Braham, et à la mobilisation de la société civile, il avait été remis en liberté en attendant son jugement en appel qui doit avoir lieu jeudi. Le ministre de la Justice de l'époque, Mohamed Salah Ben Aïssa, avait demandé l'abrogation de l'article 230, mais avait été aussitôt recadré par le président Béji Caïd Essebsi. Il y a plus de 50 cas donc, de condamnations pour homosexualité par an et une cinquantaine d'homosexuels qui se sont suicidés en 2015 à cause du rejet de la société ou de leur famille, voilà, estime Ahmed Ben Amor. Donc voilà, je suis arrivé au bout, c'est un peu dur. C'était plutôt pas mal. Oui, on va essayer tout ça. Du coup, je sais même pas si on va pouvoir remettre le...
J'ai pas mis mon micro. Oui, je disais qu'il te fallait aussi un peu de sirop.
Voilà. Et puis, je suis désolé, mais
tout le monde
je
en profite.
Ouais. Ah si, j'ai retrouvé le générique. Ah, on va pouvoir même remettre le petit bout de générique pour finir l'émission.
Oui, puis on va laisser la place à la lumière du frigo qui est juste là et qui a terminé son installation.
Tout à fait.
Impressionnante.
Et puis, peut-être pas la semaine prochaine. On verra tout ça.
Oui. C'est vrai. Encore une fois, point d'interrogation pour la semaine prochaine.
Et puis voilà, hein, on verra bien. On était là,
ben
on
oui,
était là aujourd'hui.
Hein, c'est Papa prévu. Noël, c'est le Nouvel An, c'est. Enfin bref. Quoi.
Donc voilà, ben, peut-être ans, à la semaine prochaine ou peut-être oui. Du coup à la rentrée.
Il est bien parti ton truc là
c'est, normalement c'est parti, on peut y aller.
Allez, bah, c'est encore un peu dessus. Bonsoir à toutes ouais. Et à tous.